18h-19h. C'est 100% paillade sur France Bleu Héros.
Lundi 18h, c'est l'heure de 100% paillade avec vous Bertrand Queneut. Bonsoir.
Bonsoir Éléonore, bonsoir à tous, bonsoir à tous. 3 mois que l'on attendait ça, une victoire à l'extérieur en championnat. La paillade a battu l'OGC Nice 2-1, victoire contre le 5e de Ligue 1.
On partait pas favori dans ce match. Et voilà, on a su montrer qu'on avait faim et qu'on n'allait pas lâcher jusqu'au bout. Voilà, on a été solidaires tout le match et je pense que c'est important pour la suite.
On applaudit Joris Chotard, on applaudit le courage, le combat. On se calme en revanche si on regarde le contenu et la maladresse des Niçois. Mais on a tendance à penser que c'est quand même de bon augure et que Montpellier a peut-être bâti les fondations sur lesquelles s'appuyer pour les 9 dernières journées. Bonsoir Benjamin Psaume.
Salut Bébert, salut à tous.
Consultant foot de France Bleu FE, héros avec nous en studio, Julie, supportrice de la paillade. Bonsoir Julie.
Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous.
Dorian également est là, il était du voyage ce week-end, il est toujours en voyage ce garçon, il est là ce soir en studio. Salut Dorian.
Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous.
Et puis en ligne également dans un instant Bernard Lyons du journal L'Équipe qui suit la saison du MHSC. D'ici 19h également, 2 places à gagner pour Montpellier PSG. Vous pouvez tout de suite appeler le 04 67 58 6000. Amandine vous accueille au standard, vous vous inscrivez, les 2 premiers à s'inscrire pour jouer défieront en fin d'émission avec un quiz spécial Montpellier PSG. Mathieu Casalas réalise ce 100% paillade.
100% paillade sur France Bleu Héros. Benjamin Psaume, Bertrand Queneut.
Voilà, Montpellier a donc battu l'OGC Nice 2-1. 100% paillade fait son cinéma ce soir, comme depuis deux lundis, au lendemain des Oscars et au lendemain donc d'une victoire. Un film pour résumer, Benjamin Psaume, ce Nice-Montpellier.
Je vais pas être original, c'est pas le plus grand film de l'histoire, mais je vais mettre Le Placard, que j'avais vu avec Daniel Auteuil, je crois. Parce que je vais parler, on va l'évoquer, c'est un thème, c'est Wahbi Khazri. Et pour moi, c'est le symbole de ce qui se passe dans un vestiaire professionnel, ça arrive à tout le monde ce qui lui est arrivé, et il y a 2 façons de réagir, c'est où tu te mets en mauvais mood, tu te dis, il m'a carré, je m'en fous, et je laisse pisser, l'année prochaine je jouerai ailleurs dans un autre club et j'appelle mon agent et je lui dis je veux partir, ou t'as le mec qui a du caractère et de l'expérience qui se dit, il m'a mis au placard, je vais lui montrer qu'il a fait une grosse bêtise en faisant ça, et Wahbi Khazri, heureusement pour nous, a choisi la deuxième option, donc voilà, c'est pour je veux évoquer, quand on en parlera, quand on va évoquer le cas Wahbi Khazri, mais je vais aussi évoquer le placard pour un joueur de foot, ce que ça peut produire.
Voilà, le choix de Benjamin Psaume dans 100% paillade ce soir. Alors, on a plusieurs qui ont répondu sur Twitter. On a aussi Julie en studio avec Dorian. Dans un instant, on a ouf avec Eric Elmosnino.
Je suis plus à l'hôpital.
Dans le sens petit soulagement pour Titi. On a de l'ombre à la lumière avec Russell Crowe. L'espoir de tout un peuple, nous dit le coureur fou sur Twitter. On n'est pas sorti de l'auberge, ça c'était le film de Julia. On a également Star Wars, ça c'est Julie en studio, nouvel espoir. Star Wars, Julie.
Ouais.
Ouais.
Ben, j'ai pensé à nouvel espoir, sans s'emballer quand même. Mais il y a certains petits détails dans le match qui donnent espoir, en fait.
En sursis, on aurait pu dire aussi le retour du Jedi. En sursis pour Vincenzo, les survivants pour Jérôme, résilience pour Lucas. On a aussi les intranquilles avec Leïla Bekti.
Tu fais pas confiance, en fait.
Non, je te fais pas confiance.
Donc tu me crois pas.
Non, je te crois pas.
Et ben, nous, on y croit désormais. C'est pour Yannou, ça, parce qu'on reste sur nos gardes, on n'est pas tranquille. On a retrouvé la 7e compagnie aussi. Ça, c'est pour Alexandre, la 7e compagnie, parce qu'il dit qu'on a retrouvé la paillade également. Le retour de la momie également.
C'est qui la momie? C'est Khazri.
C'est bien comme un psaume. C'est Petronfle sur Twitter. On a la revanche d'une blonde aussi. C'était Dan. Je pensais d'ailleurs qu'il parlait de Benjamin Lecomte, qu'on va évoquer. Moi, j'ai choisi le discours d'un roi. celui de Laurent Nicolin cette semaine à Gramont, celui de Cazerie aussi en avant-match, deux prises de parole qui ont réveillé les éroltés. On avait aussi Tony Rion qui nous disait il était un seul homme comme film, très beau film vu cette semaine et qui colle bien à notre match. Comment une équipe composée de débutants, c'est nous, parviennent à gagner les JO face à des équipes expérimentées, riches et possédant les meilleurs en ne faisant qu'un. Ils étaient un seul homme, donc le film de Tony Dorion.
Oui, tu l'as dit Bertrand, j'ai vu passer le tweet de Julie sur Star Wars et moi ça m'a fait plus penser au retour du Jedi justement comme tu l'as évoqué, donc voilà c'est déjà dit, mais j'en ai pas d'autres. Je l'ai dit comme lundi dernier, ma culture cinématographique n'a pas évolué en une semaine, mais
c'est voilà, difficile de rattraper 30 ans de
j'ai cinéma. Vu plus de matchs de foot dans ma vie au stade que de films à la télé, donc à partir de là c'est compliqué.
Bon bah en tout cas c'était pas un film d'épouvante ce week-end et ça fait du bien parce que ça s'était enchaîné. Benjamin, Montpellier n'avait jamais obtenu de succès après avoir été égalisé. On va, cette saison évidemment, on va éviter de s'emballer, mais ça veut quand même dire des choses en termes de mental et de mentalité.
Ouais, excuse-moi, Bébert.
Non, je t'en prie, envoie tes textos, il n'y a pas de problème.
Là, c'est Juliette.
Fais tes courses, règle ta vie.
C'est Barcola qui m'a envoyé un message, qui m'explique. Mais écoute, la mentalité, moi je pense que ce qui peut être fondateur sur ce match, et je te le dis souvent, ça on en parle souvent, c'est le dernier quart d'heure. Parce qu'en fait, le dernier quart d'heure, tu t'aperçois que Nice est allé pousser, est vraiment allé fort. Et c'est dans ces moments-là, je l'ai déjà vécu, c'est dans ces moments-là, quand j'ai vu Kouyaté nous faire 2-3 interventions sur le fil, parce qu'on était vraiment sur le fil, j'ai vu TJ se remettre en 6, haranguer tout le monde, gueuler sur tout le monde, je vois Lecomte qui fait l'arrêt à la 93e, et en fait, quand tu vois, c'est une célébration dès qu'il y a le coup de sifflet final, parce qu'on est tous dans notre surface sur le coup de sifflet final, c'est un peu le symbole où on a défendu sur le dernier quart d'heure, là tu te dis, c'est ce genre d'événement et de petits quarts d'heure comme ça qui te dit, quand t'es un entraîneur ou un staff, ça peut le faire et ça va le faire, parce que on va reparler du match. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à retenir sur ce match, mais c'est vrai qu'on a eu, pour une fois, on a eu la réussite avec nous. On a enfin eu la réussite dans les deux surfaces avec nous, des deux côtés. Mais moi, c'est vraiment ce dernier 10 minutes, quart d'heure où Nice pousse à fond, le public pousse, t'as la brigade derrière qui pousse, et nous, je vois nos joueurs qui s'arrachent, et à chaque intervention défensive, je vois ça lève les bras, ça se relève, ça se tire, ça se tape dans les mains. C'est ce petit quart d'heure-là qui me fait être assez optimiste pour la suite.
Julie, est-ce que tu as revu les valeurs et les attitudes, en effet, qui font l'ADN de Montpellier ?
Oui, complètement, dans le combat, dans l'envie, ce qui nous manquait depuis des mois. Là, je l'ai enfin retrouvé. Alors, dans la souffrance, mais je pense que, comme Benji, ça va nous servir pour la suite. Alors, sans s'emballer, bien sûr, parce que tout n'était pas parfait. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé nos leaders techniques, et même dans la grinta. On a retrouvé Lecomte, que je trouvais un petit peu effacé. Et là, on l'a vu dans plusieurs interventions, même aériennes, qui étaient anodines. Il en imposait, ce qu'il ne faisait plus depuis quelque temps aussi. Et je pense qu'aussi le retour de Bessir derrière a tranquillisé Kiki Kouyaté.
Je crois en effet qu'il ne faut pas minimiser le
retour. C'est très important et on l'a vu tout le match, gérer la ligne de hors-jeu et pousser les défenseurs en fait et diriger sa défense en fait.
Ouais. Dorion, est-ce que tu vois ici un match fondateur pour le maintien, au moins dans les valeurs ?
Alors dans les valeurs, oui. Après, je maintiens. Moi, j'étais très inquiet la semaine dernière avant ce match où voilà, j'y croyais pas du tout. Donc c'est effectivement une agréable surprise que d'aller gagner à Nice. Maintenant, je reste prudent parce que c'est une équipe de Nice qui est malade. Une équipe de Nice, oui, qui enchaîne là en ce moment les mauvais résultats. Je prends l'exemple de Toulouse qui a battu Nice la semaine passée à domicile et qui ensuite est allé perdre sur la pelouse du Havre cette semaine. Une équipe du Havre qui m'impressionne pas trop en ce moment. Donc il faut rester prudent quand même avec cet adversaire qui est malade. Donc mais sinon, oui, dans les valeurs de combat, ça on a retrouvé une équipe montpelliéraine qui s'est battue avec ses armes. C'est un peu l'équipe montpelliéraine qu'on avait en début de saison qui souffrait, qui faisait pas le jeu, mais qui, sur contre-attaque, était extrêmement efficace.
Un sixième succès au bout d'une semaine agitée. Enzo Chateau, latéral droit, nous répondait ce week-end dans les couloirs de l'Alliance Riviera. Écoutez.
C'est vrai que ça a été une semaine où on s'est beaucoup parlé entre nous. Voilà, que ce soit les joueurs, que ce soit avec le staff. On s'est beaucoup parlé parce qu'on sait que la situation est assez difficile pour tout le monde. Donc on s'est dit que voilà, avant la trêve, il reste deux matchs, qu'il fallait prendre des points tout simplement pour avancer. En passant par ce week-end, et ça passait par un bon état d'esprit, je pense qu'on a su, on a le montré. On a marqué en premier, ils ont égalisé de suite. On n'a pas baissé la tête, on a continué à avancer, à marquer ce deuxième but. Et après, voilà, On a su défendre jusqu'au bout et se battre pour obtenir cette victoire. Je pense qu'on avait quand même ce collectif, même s'ils ne se voyaient pas trop, parce qu'entre nous, on s'entend vraiment bien, on est une famille. Après, c'est sûr que quand il n'y a pas de résultat, c'est plus facile de nous tirer dessus, mais c'est vrai que ce soir, on s'est battu tous ensemble. Voilà. Que ce soit sur les coups de pied arrêtés, même l'arrêt de Benji à la fin, voilà, on a senti qu'on était vraiment ensemble et je pense qu'il faut garder ça pour les prochains matchs, pour les prochaines échéances qui nous restent.
La réaction donc de Enzo Chatto. On va prendre Stéphane qui nous appelle pour réagir sur le match. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous, Stéphane. Bonsoir. De Bretagne.
Oui Stéphane, je te remets bien sûr.
Bonjour à vous, ça va ?
Ça va très bien, ça va évidemment, après un succès ça va toujours mieux et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas obtenu à l'extérieur.
Moi ça va mieux depuis 22h58 vendredi quand même.
Ouais. Comment t'as trouvé ce match Stéphane ?
Eh ben le combat, ils n'ont rien lâché, chacun a bossé pour le copain. Les dernières minutes ont été très très éprouvantes, hein, entre les corners, les coups francs et l'arrêt des déterminants de Benjamin.
Ouais, c'est vrai.
Le Benjamin de l'antenne l'avait prévu. Hein.
le Benjamin de l'antenne, il prévoit beaucoup de choses.
Mais il a prévu, je sais plus ce qu'il avait prévu également, une autre truc que j'ai plus en tête là, mais ça s'est passé. Donc vraiment, Benjamin.
J'aurais dû faire un ticket ce week-end, Stéphane. Hein,
le voyant.
Là, mais c'est vrai, je le sentais ce match.
C'est notre Madame Irma. Ici.
Parce que c'est vrai que s'il y a une équipe en Ligue 1 qui est peut-être plus malade que la nôtre, c'était Nice. Et je voyais pas mal de faiblesses et de carences. C'est vrai que je sentais ce match-là, je sentais qu'on allait faire un coup. Et j'attendais le fameux arrêt de Benjamin Lecomte qui va peut-être te maintenir. Donc il l'a fait sur ce match-là, puisqu'il nous permet d'avoir les trois points sur ce match-là, mais il va falloir qu'il en fasse d'autres aussi. Mais c'est vrai que côté Montpellierain, ils ont tous mis 10% de plus par rapport à d'habitude dans l'agressivité, comme tu l'as dit Stéphane. Ils ont tous mis un peu plus dans l'agressivité, dans l'envie. Et face à une équipe comme ça, avec un petit peu de réussite, parce qu'on va pas se mentir, les buts qu'on marque, on a de la réussite et ça fait du bien parce qu'on en a presque pas eu de la saison. Donc toute cette mixture-là fait qu'on a réussi à prendre les trois points. Mais il faudra, dans l'attitude, dans la mentalité, il faudra garder ça jusqu'à la fin de saison, même quand on jouera contre les gros. Dès dimanche soir, il faudra faire pareil, parce que dans tous les cas, il n'y a plus de matchs de gala pour moi, il n'y a que des matchs, des finales. Donc que ce soit Paris ou Le Havre, il faudra prendre des points.
Oui, et surtout, encore Paris, on peut peut-être le considérer comme un bonus, ce match-là.
Il n'y a plus de match bonus, Stéphane, dans notre situation. Non. Malheureusement, il n'y a plus de match bonus. Ouais.
Peut-être qu'on a une petite chance, parce que Paris joue justement contre Nice en coupe, mercredi. Ouais. Et par contre, après dimanche, là, les trois matchs qui suivent, Le Havre, Lorient, Clermont, là c'est 9 points.
Ah bah elle va se jouer là, hein, notre.
Ah oui, ça va se jouer là aussi.
Le travail à la trêve va être ultra important, ouais.
Ouais, ouais. On interrogera d'ailleurs Michel Derzakarian pour savoir ce qu'il a prévu durant la trêve, parce que là, pas falloir blaguer. Stéphane, tu restes en ligne avec nous si tu veux. On va prendre Bernard Lyons du journal L'Équipe, notre confrère. Bonsoir Bernard.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Bonsoir. Bernard, comment ?
Je vous écoute, ça va, vous avez tous retrouvé le moral.
Ouais, plutôt, pas toi.
Alors, mais moi, je l'ai toujours regardé, j'étais pas très très inquiet, pour tout vous dire, pour cette équipe de Montpellier.
Ouais, on n'est pas sorti d'affaire non plus.
Et pourquoi ça ?
Mais parce que quand tu regardes les autres équipes, tu te dis que, quand même, dans cette équipe, alors je vais pas changer mon fusil d'épaule de ce que j'avais dit en début de saison, c'est que c'est une équipe qui a du talent, qui a de la qualité. Moi, je pensais que si ça allait pas mal dérouler pour Montpellier cette saison, ce que j'espérais, ils pouvaient aller titiller la 6e, 8e place, et que ça se passait mal, ça serait entre la 10e et la 12e. C'est vrai que je ne les voyais pas à ce stade-là, c'est-à-dire aussi mal, mais il y a eu beaucoup de données objectives. On va pas refaire le catalogue de mes aventures de Montpellier depuis le début de la saison. Et quand tu regardes les autres équipes avec lesquelles Montpellier se retrouve en lutte pour le maintien, il y a vraiment de la qualité, et je suis d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus. Il manquait juste une question d'état d'esprit, un peu de grinta, parce que, d'accord, la chance, elle a tourné à Nice, mais moi, la chance dans le football, c'est comme dans la vie, j'y crois pas. Il faut surtout la provoquer, c'est ce que les Montpelliérains sont parvenus à faire à l'Alliance Riviera vendredi.
Ça veut dire quoi, Bernard, que t'es plutôt très confiant pour le maintien?
Non, je suis pas inquiet, ça veut pas dire que ça va se faire finger in the nose, hein. Alors il y a le match contre le Paris Saint-Germain qui est un match totalement à part, mais après Montpellier n'est plus relégable. Montpellier se retrouve avec son destin entre ses mains, et puis un calendrier où il y a pratiquement des matchs à la mort subite. Vous allez jouer tour à tour Le Havre, Lorient, Clermont, Nantes, Toulouse. C'est quand même un calendrier qui est abordable. Et là, il va falloir montrer et mettre les mêmes ingrédients que les Montpellierains ont mis à Nice, c'est-à-dire en plus du talent de joueurs comme Régis, comme TJ Savanier, pardon, ou Benjamin Lecomte, d'afficher cette solidarité et cette solidité qui a manqué et qui a fait cruellement défaut à Montpellier de façon assez cyclique depuis le début de la saison.
Il était nommé tout à l'heure là par l'équipe en studio. Ton regard, Bernard, sur un homme que tu connais bien. Alors il y en a plusieurs dans cette équipe, mais Cazeri, puisque tu as suivi beaucoup la S Saint-Etienne, Cazeri, Nordin, deux trajectoires différentes, mais une origine commune, donc la SSE. Cazeri, deux matchs au placard, on le pensait enterré. Benji parlait tout à l'heure de lui en introduction. Le voilà ressuscité. Est-ce que c'est surprenant ou pas tellement d'après toi?
Ouais, enfin, Cazeri, c'était pas non plus un mort-vivant. Le problème de Wabi, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'enchaîner, qui a besoin de jouer. Sinon, il a tendance à vite s'empâter. Et là, on l'a vu. Je trouve que Michel Derzakarian a été assez subtil dans son management. Il se plaignait de pas assez jouer, Wabi Cazeri. Il a joué, il a pas performé. Il s'est retrouvé, comme vous dites, au placard. Et Michel Derzakarian a habilement su le piquer. Et il y a rien de plus sain pour un joueur de ce niveau, c'est de le piquer. Après, la titularisation de Cazeri n'a pas révolutionné à elle seule la prestation d'ensemble de l'équipe. Vous vous souvenez quand même de Kiki Kouyaté qui avait été très bon sur la deuxième partie de saison l'année dernière et qui enchaînait boulette sur boulette, le pénalty à Marseille, le pénalty la semaine précédente devant Strasbourg. Et là, c'est vrai qu'il a retrouvé un peu de concentration et de solidité. Pour moi, c'est un travail d'ensemble. C'est pas un joueur qui a mené l'équipe vers le haut, mais ce sont tous les joueurs qui ont décidé de eh ben un petit peu, excusez-moi l'expression, de se bouger le popotin. Et après, la qualité, elle le suit, parce que j'insiste là-dessus, mais Montpellier est une équipe, alors je parle pas en termes d'effectifs, mais sur le 11 de départ, c'est une équipe de qualité qui a rien à faire dans les bas-fonds du classement de la Ligue 1.
Benji, en studio, tu as déjà été, pour revenir un instant sur Cazeri, même si Bernard dit c'est pas évidemment à lui tout seul qu'il a gagné le match, mais tu as déjà le placard, tu connais le placard, sans vouloir te faire offense. Ouais. T'es piqué quand tu passes comme ça de... Alors, en plus, Cazeri, c'est un joueur particulier parce que c'est un joueur qui aime avoir un premier rôle et c'est certainement pas un rôle de figurant. Et...
C'est comme je te disais, t'as deux écoles. T'as le coach qui sait qu'il peut piquer certains joueurs et d'autres non. Wabi Cazeri, il a assez d'expérience et de bouteilles pour savoir qu'il a il l'a mis au placard pendant deux matchs et là il le remet titulaire sur un poste particulier parce qu'il a joué une sorte de 9,5 sur ce match-là. Mais tu le vois dès le début, j'ai compris de suite. On est arrivé, on a regardé l'échauffement Bertrand et à l'échauffement, il a dit à TJ, pousse-toi TJ, aujourd'hui c'est moi et c'est moi qui les prends autour de moi. Et c'est lui, on le voyait, qui était très vindicatif dans son discours. Et rien que quand tu vois ça, tu sais qu'il a compris. Il revient dans l'équipe, il a envie d'aider l'équipe parce qu'il y a une certaine, je vais pas dire une intelligence que d'autres n'ont pas, mais il y a un côté compétiteur où le gars, ok, tu m'as mis de côté coach, ok, tu m'as mis de côté, mais là, je reviens, je vais te montrer que tu as fait une grosse erreur. C'est peut-être moi qui vais t'aider à te maintenir pour la fin de saison. Peut-être que d'autres joueurs, je pense peut-être à un Caramo ou un joueur comme ça, peut-être qu'un Caramo, il le pique et un jour, il va le ressortir. Et peut-être qu'il n'aura pas du tout la même attitude et il dira, il m'a carré, moi je m'en fous et tout. Donc on ne sait pas.
Et puis Cazeri, peut-être aussi qu'il a envie finalement d'aller chercher un peu plus ici à Montpellier.
Bien sûr, c'est ce que je te dis toujours. Dans une saison, on retient toujours le début. C'est ce que les entraîneurs me disaient, le début de saison et la fin de saison. Si jamais Cazeri, il commence à être titulaire devant, et qui te met quelques pions, quelques passes dés, et qu'on se maintient, et qui met un but important, tu verras que tous les supporters, ils auront oublié, ils diront, quand on en a eu besoin, Cazeri, il est venu, et il nous a sauvés, en grande partie, et donc, pour la saison prochaine, en cas, on le reprendra.
Et ben, justement, des supporters, on en a en studio, Julie et Dorian, qu'est-ce que vous en dites, vous, du cas Cazeri? On l'avait plus ou moins enterré. Julie, je sais que tu as aimé, notamment sa position, ses déplacements sur ce match-là.
C'est ça, il a apporté beaucoup de mouvements, il est revenu en arrière, mais en appui remise, en contrôle orienté. Ce qui a beaucoup aidé l'équipe à avancer et à presser aussi. Il a été fort au pressing, notamment sur le gardien, qui était un peu limite 2-3 fois sur les relances. Et puis son état d'esprit, on a retrouvé ce que je te disais hors antenne, le Wabi de la Tunisie.
Le Wabi de la Tunisie, en effet, le Wabi des débuts de Dalloglio, celui qui se donne, quoi. Et comme disait Bernard, il a besoin d'être. C'est aussi un joueur. Il nous l'avait dit d'ailleurs. J'ai souvenir d'une zone mixte il y a quelques mois avec lui quand il était pas mal en début de saison. Il avait enchaîné deux ou trois matchs. Il nous avait dit j'ai besoin de ça.
Diesel. Parce que je te dis à chaque fois, c'est un diesel. Hein. C'est pas un joueur qui va rentrer à la 60e, 70e et te mettre le feu dans une défense. C'est un mec qui doit démarrer les matchs et comme ça évoluer. Et là aussi bien joué de la part de Derzak. Il devait peut-être s'attendre, Todibo et Dante, à avoir un corps en pointe et se dire, allez, ça va être du combat, ça va être du combat. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout l'inverse. On a mis un Wabi. On l'a vu à droite, à gauche. On l'a vu décrocher. Et en fait, Dante, il savait pas trop. Il allait dans toutes les zones, vers les latéraux. Et en fait, les Niçois ne savaient jamais vraiment le prendre. Il a joué, comme a dit Julie, en appui remise. Il a été très intéressant défensivement. Et le symbole aussi, c'est qu'à la 60e, je le vois, il se met par terre et commence à s'étirer. Et Wabi, c'est pas qu'il est cramé, c'est qu'il a fait tellement de courses, comme tu dis, pour aller presser. Il a tellement empêché la première relance niçoise de Dante et Todibo qu'à la 60e, s'il demande à sortir, ben ça me va très bien.
Il y a un point important aussi. Enfin, quand on fait jouer les joueurs à leur vrai poste, aussi, ça, bizarrement, ils deviennent plus performants. Alors, Cazeri, on l'a fait jouer en tant qu'ailier sur plusieurs matchs. Il n'a pas été bon. Là, on le remet dans le cœur du jeu, on le fait participer au jeu et bizarrement, ça fonctionne
mieux. C'est un 9,5, c'est un 9,5 ou un numéro 10.
Si on pouvait être aussi inspiré avec Khalil Fayad, ce serait pas mal.
Oui. Oh, il a glissé.
Il y a les mots de Cazeri donc, qui ont fait mouche. Benji, il y a aussi ceux du président. Confirmation du milieu de terrain, Joris Chotard, c'était en zone mixte ce week-end. Écoutez.
Ben, je pense, vu que là, on a fait un bon match. Mais voilà, j'espère aussi qu'il n'aura pas à revenir avant la fin de la saison et que tout ira bien pour la fin de la saison.
C'est la deuxième fois qu'il s'exprime en l'espace de quoi? Ouais. Un mois et demi.
Il y a deux lectures aussi, Bertrand. Moi, je suis Michel Dazakarian. À la fin du match, je vais célébrer avec mon équipe, mais je vais aller leur tirer les oreilles un petit peu. Et je leur tire les oreilles, je dis, les gars, par contre, vous choisissez. Qu'est-ce qui se passe? Vous choisissez un petit peu vos matchs. C'est quand on vous met la pression et qu'on vient pendant la semaine que vous commencez à vous bouger un petit peu, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils ont fait un match meilleur que les matchs précédents où ils en ont mis un peu plus tous dans l'agressivité, dans l'envie. Et c'est assez ça qui est particulier. C'est bien, il y a eu une réaction. Peut-être la première fois qu'on est barragiste, plus le discours de Laurent Nicolin, mais Michel Dazakarian et son staff, peut-être qu'ils aimeraient ne pas avoir à ce que Laurent Nicolin vienne à Grammont. Comme a dit Joris, on ne veut plus qu'il vienne. Peut-être faudrait qu'ils comprennent d'eux-mêmes que la situation elle est assez quand même chaude. Et c'est vrai que c'est Michel Dazakarian doit se dire, il ne faut pas que je fasse venir le président à chaque fois dans mon vestiaire pour qu'il y ait une réaction.
Et c'est pour ça que je reste très mesuré après cette victoire, parce que là, du coup, on n'est plus barragiste et Laurent Nicolin, il ne va pas venir parler dans le vestiaire chaque semaine avant les matchs. Mmh. Donc là, je me dis, sur le prochain match, bon, c'est Paris, forcément.
On part
déjà avec zéro point, mais. Enfin, moi je suis d'accord pour dire que c'est un match bonus, mais par contre là sur les trois matchs qui arrivent après la trêve, Laurent Nicolin, donc je pense pas qu'il aura un discours fort dans le vestiaire et il y aura vraiment des matchs importants à jouer face à des concurrents directs, face au maintien, et là je me demande quelle va être la réaction de l'équipe sur des matchs
que j'entende pas Bébert, qu'on n'entende pas qu'il y a eu de la légèreté cette semaine à l'entraînement quand même, comme l'autre fois après Metz.
Il y a la réaction de l'équipe, il y a Bernard Lyons du journal L'Équipe qui est en ligne avec nous toujours. Bernard, les mots de Laurent Nicolin, d'après toi, impact, gros impact sur ce match et sur ce groupe?
Si vous permettez, je voudrais revenir sur le débat de Wabi Cazeri. Il ne faut oublier l'aspect psychologique du joueur. Souvenez-vous, avant de venir à Montpellier, il est resté sur une défaite et une descente catastrophique avec la Saint-Etienne, ce qui vaut pour Arnaud Nordin et pour Salah Issako, vaut pour Cazeri. Sauf que Cazeri se retrouve à la fin de sa carrière. Et vous imaginez que Cazeri, après avoir fait descendre Saint-Etienne, il fait descendre Montpellier, ça ferait quand même tâche sur son CV. Lui qui était sorti quand même par la grande porte lors de la dernière Coupe du Monde au niveau international. Et connaissant le joueur, connaissant la personne, il voudra tout faire pour surtout qu'il n'y ait pas ces deux taches noires sur son CV. Ouais. Voilà, ça c'est dit pour Cazeri. Après, en ce qui concerne le président Laurent Nicolin, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de venir toujours au contact de ses joueurs et de parler systématiquement. C'est vrai que de recadrer un petit peu les choses, c'est important. Il faut quand même oublier. Il ne faut pas oublier quand même que c'était la première fois depuis 8 ans que Montpellier se retrouvait dans une position de relégable. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça n'allait pas très bien. C'était un petit peu compliqué comme saison, mais il n'y avait pas le feu au lac. Ouais. Là, il y avait vraiment le feu à la Mosson, et que tu te retrouves dans une situation avec la victoire inattendue de Lorient qui a suivi le match de France à Strasbourg, à Nantes, tu te retrouves dans une situation de relégable. Et là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment urgence, et c'est pour ça que l'état-major montpelliérain a décidé un petit peu de taper sur la table et de secouer les joueurs. Et j'insiste là-dessus, c'est plus une question de... C'est pas que les montpelliérains s'en fichent ou aient un mauvais état d'esprit, c'est qu'ils ont cette incapacité sur une saison à se faire violence. Et à partir du moment où vous êtes incapable de gagner des duels dans un match, vous ne pouvez pas gagner un match. Vous voyez, moi, être supérieur techniquement, avoir une bonne défense, des bons joueurs, un bon gardien, etc. Si à un moment vous ne faites pas violence pour gagner des duels, vous ne pouvez pas gagner un match. Et vous parliez un petit peu tout à l'heure de Benjamin Lecomte, de Cazeri et d'autres.
Mais regardez Jordan Ferry, il a gagné tous ses duels en première période à Nice. Forcément, à partir du moment où tu récupères le ballon et que tu le gardes, bah, c'est plus facile pour obtenir des résultats.
Sur ça, tu dis quoi, toi, Bernard ? Tu dis que ça vient du groupe, que ça vient des cadres ou que ça vient du coach ou que ça vient de la culture du club ?
Non, moi, je pense que... Alors, je connais beaucoup moins bien le club que vous, bien entendu, mais c'est quand même un club que j'ai dans le cœur, que je suis depuis très longtemps. Et je trouve que à Montpellier, il y a des leaders techniques comme TJ Savanier, mais il manque de tauliers. De tauliers de vestiaire, de joueurs qui soient capables, comme à l'époque, pas si lointaine, de Vittorino Hilton, de pouvoir faire la police dans le vestiaire, de pouvoir recadrer les joueurs, de pouvoir les tirer vers le haut. Alors, être un leader technique comme TJ Savanier, c'est extrêmement important, mais ça me fait penser un petit peu, si vous voulez, la comparaison, mais à la grande époque de l'équipe de France, il y avait d'un côté Zidane qui était leader technique, et puis derrière, il y avait des tauliers de vestiaire qui s'appelaient Didier Deschamps ou Laurent Blanc. Et je trouve qu'à Montpellier, ce qui manque cette année, c'est justement cette absence de tauliers qui sont capables de booster, dans le bon sens du terme...
Il y a Zidane et il n'y a pas Deschamps, quoi.
Oui, c'est ce qu'ils cherchent. On le sait, Michel Dazakaria, on a demandé peut-être à Kouyaté, à un moment donné, de devenir un cadre du vestiaire. Je pense qu'Omer Hadjic, s'il continue, on le garde, ça va devenir un cadre du vestiaire.
On aurait aussi pu imaginer le soit un... Non, mais même moins jeune, un Benjamin Lecomte, mais c'est vrai que peut-être qu'avec ses performances un
gardien
peu plus
particulier,
en particulier. Et en plus, c'est un gardien. On avait à un moment donné Mamadou Sakho, mais dès lors qu'il jouait moins, évidemment qu'il avait plus ce rôle-là, puis en plus, il est plus là. On aurait aimé qu'un Kasri le soit peut-être davantage sur la durée, mais peut-être qu'en effet, c'est mis à l'écart et c'est mis sur le banc. On fait que...
Bon. Ouais, c'est mon cher, c'est vrai qu'on manque de tauliers dans cette équipe, ça on le sait.
Et... C'est sûr que quand t'avais Delors, Hilton, et que t'avais en plus un Camara toujours là.
T'avais Congrès, tout ça. Voilà, c'est sûr. T'avais du lourd.
C'est certain. Il est 18h31. Bernard, merci beaucoup.
Merci à vous, les amis. Et puis, vous faites pas trop de fondant quand vous allez voir le maintien va être compliqué, mais. Vous allez y arriver.
Eh ben, on espère qu'il sera dans la poche. Bernard Lyon, journal de l'équipe, qu'on retrouve aussi sur la chaîne l'équipe, régulièrement dans l'équipe du soir et peut-être dans d'autres émissions. Je regarde pas l'équipe, je regarde beaucoup, mais pas du matin au soir, évidemment. Donc, je sais pas s'il est ailleurs, Bernard Lyon, mais en tout cas, vous le retrouvez dans le journal de l'équipe. Il suit la saison de Montpellier, entre autres, désormais. Et puis, dans l'équipe du soir, partenariat France Bleu, l'équipe, la raison de sa présence ce soir. On te remercie beaucoup, Bernard. À très, très bientôt. Dans un instant, on va parler du banc aussi, qui a été, à défaut d'être décisif, qui a été très efficace sur ce match-là. On parlera aussi et encore de Benjamin Lecomte. On a Pierre et Gilbert qui veulent passer en direct. Il est 18h32 et puis des places toujours à vous faire gagner. On en a deux ce soir à vous faire gagner pour Montpellier Paris Saint-Germain dimanche soir à 20h45. Vous appelez Amandine au standard 04 67 58 6000. Les deux premiers à s'inscrire et qui sont retenus par Amandine s'affrontent en fin d'émission.
Les 15 et 16 mars, l'oursinade de Thau s'installe à 7. Venez déguster l'oursin à la chair si délicate, au corail orangé et savoureux. C'est maintenant la période pour l'apprécier. Dans une ambiance guinguette, les pêcheurs d'oursins, viticulteurs, conchiliculteurs, fabricants de tiel, vous proposent des produits 100% locaux. L'oursinade, c'est vendredi 15 mars à partir de 18h30 et samedi 16 mars toute la journée, place Léon Blum, rue Gambetta et rue de Strasbourg à 7. Manifestation organisée par 7 Aglopole Méditerranée et la ville de 7. Plus d'infos sur aglopole.fr.
Un mot sur vos conditions de circulation dans le département. Sur les autoroutes de l'Hérault, rien à signaler. Ça roule sur la N113, c'est compliqué de Bayargues jusqu'au niveau du Crès. Et dans le centre-ville de Montpellier, c'est surtout aux abords du rond-point du Grand M et sur l'avenue de la Liberté que c'est compliqué. Soyez prudents.
Ici, on parle football.
Et le seul qui court sur le terrain vraiment, c'est Cantona. Et le seul qu'on va engueuler, c'est Cantona. Je vois pas pourquoi les 20 sur heure, c'est le seul qui court sur le terrain. Les autres sont des chèvres, il faut le dire.
Chaque lundi et vendredi, dès 18h, c'est 100% paillade sur France Bleu Hérault.
Candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight.
Light Cherry sur France Bleu Hérault.
100% paillade sur France Bleu Hérault.
C'est la ligne ouverte, Bertrand, qu'on a plein d'auditeurs qui veulent intervenir.
Exactement, on a Pierre et Gilbert qui nous appellent. Gilbert qui est chroniqueur désormais sur France
Bleu. Qui vient au studio.
Bonsoir Gilbert.
Oui, bonsoir.
Salut Gilbert.
Je me suis permis d'ailleurs une chronique, si vous allez sur le commentaire dans Midi Libre. J'ai mis une chronique où j'ai dit que finalement c'était un juste retour des choses parce que quand même depuis le début de saison on n'a pas été aidé avec ces 3 points de Clermont parce que ça reste en travers. L'égalisation de Lille qui nous est refusée alors que le but est valable. La même chose à Strasbourg. Enfin ça fait beaucoup. Hein. Alors tout ajouté, ces 3 points on les a pas volés.
Mais on peut dire que la réussite a fait tourner Gilbert. Sur ce match-là, ça a fait tourner.
Enfin. Et ensuite, je souligne que Benjamin nous avait reboosté vendredi, je n'ai pas pu vous appeler, mais quand il a dit « il faut les 3 points à Nice », j'y ai cru.
Ouais. Bah merci Gilbert, c'est le,
c'est le seul qui y croyait.
Vous êtes le seul qui y croyait, parce qu'on m'a rigolé au nez quand j'ai dit ça.
C'est vrai.
Et si, si vous croyez aussi, parce qu'il y a eu le 4-1 en coupe. À mon avis, les joueurs, quand on prend une rousse 4-1, on a envie de se venger quand même.
Hein. Ben, il y avait ça, Gilbert, on en a parlé. Il y avait première fois qu'on est barragiste. Laurent Nicolet qui descend dans le vestiaire, plus la revanche peut-être un petit peu de la Coupe de France. Tous ces facteurs-là, une équipe malade en face, c'est pour ça que j'étais assez optimiste.
Laurent Nicolet l'avait déjà parlé dans le vestiaire et c'était justement avant ce match face à Nice en Coupe de France et ça n'a pas eu,
l'effet
qu'on attendait.
Ça a été publié dans Midi Libre, et ça compte. Ouais. Ensuite, quand même, tout ce que vous avez souligné, je suis entièrement d'accord avec vous, le retour d'Omeragic, c'est décisif derrière. Ouais. Le Casri, ça faisait des mois que je disais Casri, il faut l'utiliser en 9,5. Tavanier, il faut qu'il soit un peu plus loin. Et on voit la différence, quoi, avec un Casri qui est technique, qui bouge, et effectivement, comme vous avez souligné, il ne savait pas comment le prendre, les défenseurs. Ouais. Il ne savait plus quel était son poste, s'il était avançant, s'il était milieu offensif. Et ça les a troublés. Et après, bon, il y a tous les joueurs qui se sont vraiment donnés, on aimerait le voir.
Et puis, il y a le banc. Voilà. Le banc Hérolté, qui est, on disait, l'un des moins décisifs de Ligue 1 en termes de de stade, de but, de passe D, mais pour le coup et pour une fois, que ce soit Julien, Château, Leroy, c'était pas, c'était un banc de poison auquel on a eu le droit. Ça, c'est dédicace pour Benjamin Psaume. Vous êtes d'accord avec ça? Le banc, enfin, on n'a pas vu la différence entre ceux qui sortaient et ceux qui rentraient.
Enfin, ouais, et surtout surpris de l'entrée de Léo Leroy. Alors,
c'est un match. Ouais.
Non, mais enfin voilà.
Bon, il fait adoré.
Ouais, non, très bien. Et en plus, avec la sortie de Jory Chautard, où en fait, on entend. Enfin, moi, j'étais au stade, donc moi, j'entends le speaker annoncer le changement de. Enfin, la sortie de Jory Chautard. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, entrée de Léo Leroy, je fais, ouh là, ça va être compliqué. Et finalement, oui, il a sorti un gros match, Léo Leroy, parce qu'en plus, on s'était fait un peu transpercer au milieu en première mi-temps. Jory, qui n'a pas fait le meilleur match, son meilleur match de la saison. Donc, non, vraiment agréablement surpris du rôle des entrants, de ce qu'ils ont apporté. Voilà, maintenant, il faut être peut-être décisif, mais ça va venir. C'est bon signe déjà.
Gilbert, on a Pierre également qui nous appelle. Je le prends à Clermont. Oui.
Et surtout, ce qu'il faut, c'est qu'ils ne perdent pas le nerf. Qu'on voit la même chose contre le PSG. Parce que si on fait un coup contre le PSG, on sauve la saison.
Je vais te dire une chose, Gilbert, et je vais vous la dire à tous. Tu fais bien de dire ça, de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre le nerf, effet, parce que c'est le discours, en gros, qu'a tenu Laurent Nicolin, sans dévoiler des secrets, cette semaine à Gramont. Le fameux discours de Nicolin, c'était quoi? C'était de dire, on est pris pour des cons partout, par tout le monde en ce moment. Moi, je sais que votre vestiaire vit bien. Moi, je sais que vous avez de la qualité. J'ai confiance en vous, le staff, le coach, le club. Je veux que tout le monde élève au quotidien son niveau de travail, son niveau d'investissement et son niveau donc de performance qui va en découler. Arrêtons de nous faire prendre pour des cons et voilà, allons chercher ce maintien. C'était ça, c'était pas sorcier, hein, il est pas. Mais rien que le fait qu'il soit là et qu'il dise à tout le monde, j'ai confiance en vous, en toi, et élevez votre niveau de performance parce que tout le monde se fout de notre gueule en gros. Et ben voilà, ça suffit et j'espère que ce discours est bien installé dans la tête de tous pour les 9 matchs à jouer.
Moi, je m'interroge quand même. Je me demande, mais pourquoi du coup ils écoutent plus Laurent Nicolin que Michel Derzakarian? Moi,
parce que c'est Laurent Nicolin qui te paye tous les mois.
Et tu crois que Benji écoute plus toi ou plus moi, à ton avis?
Il va pas m'écouter. Attends, pas moi Derzak. Non, mais c'est voilà, on joue. Sur quoi on joue, Bébert? Réapprendre le football, même si on n'a pas parlé, mais on est quand même, c'est assez couillu. Excusez-moi l'expression d'aller jouer à Nice à 4, chez un top 5 du championnat, même en crise. Mais on n'en a pas parlé, mais on allait jouer à 4 là-bas. Donc c'était déjà, rien que dans ta compo de départ, tu montres un petit peu d'ambition et l'envie de faire un coup. Mais après, bien sûr, Laurent Nicolin, quand il va dans le vestiaire, il agit sur quoi? Sur la fierté. C'est ce que tu fais sur l'orgueil, la fierté. Tout le monde nous prend pour des cons. Personne ne nous respecte. Vos familles, vos proches, les supporters, on se fait tailler par tout le monde. Écoutez, montrez-leur, donnez un peu de plaisir, montrez-leur et à la fin, on fera les comptes. Et bien évidemment, Laurent Nicolin, il n'allait pas apprendre tactiquement et techniquement quoi que ce soit. Mais bien évidemment, c'est la fierté et l'orgueil qui sont tapés sur ces réunions-là.
Tu as parlé de la défense à 4, mais moi, je souligne également la réaction de Michel Derzakarian en seconde mi-temps, que quand il voit qu'on commence à prendre l'eau derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, c'est qui sort? C'est Caserie, je crois. Il fait entrer Christopher Julien. Il fait sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur passant défense à 5. Et là, j'ai trouvé ce changement vraiment important.
Ouais, ça, c'était, on s'en doutait un petit peu, Bébert, sur la physionomie du match. Réaction. On s'en doutait un peu. On savait qu'il allait passer à 5. Et après, tu parlais des entrants. J'ai pas eu le temps de réagir dessus. Mais ils ont fait ce qu'on attend depuis le début. Et toi, t'as dit qu'ils ont pas affaibli l'équipe. Et je vais te dire mieux. Moi, ils ont fait mieux, je trouve. Moi, je préfère un Château. J'ai vu plus de choses de Château que FT depuis 5 matchs. Château, il a bouffé le couloir. On l'a pas assez servi, je l'ai trouvé très bien. Et ça m'a fait plaisir de voir un mec avec du gaz comme ça. Et le roi tant décrié, on l'a foutu vraiment, lui, sur le coup, en sentinelle. On l'a mis en deuxième mi-temps devant les deux centraux. Il les a énormément aidés, coupé beaucoup de trajectoires de passe. Donc, mes entrants, moi, je les ai bien aimés, mais il va falloir faire pareil, qui que ce soit qui joue, il va falloir faire pareil à chaque match.
Et même Julien,
parce qu'on le remet, il est rentré, comme a dit Dorian, dans sa défense à 5, donc dans son fauteuil, où il est beaucoup plus à l'aise. On l'a remis avec Béchir à côté et Kiki, donc il s'est retrouvé avec les copains, et ça a bien fonctionné il y a quelques mois, on s'en rappelle, dans ce système-là. Et là, il est revenu bien, et à la pipe, comme je disais tout le temps, il va à la tête, il coupe toutes les trajectoires de centre. Il y a un moment, un duel incontré, même au sol, il fait une super intervention dans la surface. Ils sont tous rentrés dans le bon mood, et ça, je pense que, comme on dit, c'est lié à ce que Laurent Nicolin a dit. J'ai confiance en vous tous. Quand il dit tous, c'est pas les 11 qui débutent, c'est tout vestiaire en qui il a confiance, et ça a peut-être boosté un peu tous ces mecs-là.
Pierre également à Clermont-Lérault. Gilbert, bisous. Voilà.
D'accord, bisous.
Que derrière, ça est perdu, hein, à part le...
C'est clair.
Voilà. Bah, c'est mitigé, le résultat. Ouais.
Merci Gilbert, à bientôt. Pierre à Clermont-Lérault, bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Je sens du soulagement.
Ah oui.
Ben, ouais, franchement, quand le match a commencé, j'y croyais pas.
Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le match, je regardais assez là, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas notre Montpellier, quoi. On a retrouvé nos trucs païanins, quoi. Ouais. Par contre, moi, je tiens à féliciter les deux supporters.
Oui.
Notamment un, Julien, qu'on a vu torse nu à la télé, qui fait le Benchlin.
On l'a vu en avant-match.
Il vient de m'envoyer un message en plus et il dit lui, il félicite pour le coup Benjamin. Il me dit, tu diras
c'est vrai qu'avant le match.
À Benji.
Il me croyait pas
avant la victoire de Montpellier à Nice. On l'a vu devant le grillage là où on a fait l'émission.
Ouais. Mais moi, j'ai retenu un truc l'année dernière quand j'ai appelé. J'espère que Bertrand, il a payé la piste à la lire.
Mais non.
Eh ben, on l'a même pas vu après. Voilà, donc là, je vais même pas la payer.
C'était sûr, Pierre.
Je vais carrément la fabriquer, voilà. La pizza.
C'était sûr. Je préfère que tu la payes. Parce que fabriquer, ça va aller. Niveau cuisine, t'es pas ouf. Mais non, on a rien de droit à rien, comme d'habitude dans les déplacements. Hein. C'est une habitude.
Après, bon, pour revenir au match, franchement, on a vu un bon Montpellier-Rau. Quasi, enfin, Der Zakarian nous a écoutés. Il a mis accord d'entrer sur le banc. Là, il m'a fait un grand plaisir. Là, je crois que je re-signe pour Derzac. Hein. Mais et après, on a, pour moi, en deuxième mi-temps, on a eu un très grand Jérôme Leroy que j'ai vraiment apprécié.
Léo, pardon,
c'est Jérôme, c'est son père. Franchement, bien, tous ils ont bien joué, quand même. Même Tchato, mais plus ça va, plus il nous régale. Quoi.
Ah, il est en train de bouffer le couloir. Hein. Pour moi, il est en train de prendre le. Non, Julie, t'es pas d'accord.
Il nous fait oublier Ruben Aguilar. Hein.
Attendez, parce que là, on est tous d'accord, sauf lui. Julien n'est pas d'accord.
Non.
Ah, si.
Et pourquoi ?
Si, si.
Les boulevards derrière lui.
Ben, les boulevards, il n'y en a
il
pas
derrière. Il y en avait derrière. C'est là aussi.
Les Champs-Élysées.
Oui, mais il redescend pas assez.
Ben, le truc, c'est qu'il a tellement essayé des fois d'apporter le surnombre sur les contre-attaques. Chaque fois que c'est pris sur son côté, on le voit sur l'axe l'occasion.
Je
l'entends tout à fait. Mais en fait, par exemple, quand c'est passé de son côté avec Guessant, c'est notamment parce que justement, il est allé dans la profondeur, il est allé haut, et on voit c'est Ferry qui devait compenser à sa place, qui était en retard. Donc c'est ça sur la grosse occasion, parce qu'ils ont eu des occasions Nice en deuxième de grosse occasion. Mais c'est vrai que c'est. Mais moi, je préfère ça qu'un FT qui, comment te dire. Ouais. C'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'il subit les matchs. Il est là, il fait du plat, il subit.
Et lambda.
Et j'ai moyen, Tchato.
On m'a dit qu'FT était mieux.
Oui. Mais de toute façon, après, Julie,
le débat
va être vite réglé parce que je pense que FT, il dit qu'il est derrière l'oreille. Et je pense qu'on l'a pour un bon mois perdu. On verra les examens. Mmh. Mais je pense qu'on l'a perdu pour un bon mois. Donc je pense que là, Tchato, avec
c'est
sa rentrée.
C'est qu'on se met derrière l'oreille d'habitude. Non,
on a parlé de Kazri aussi, sa mise au placard pendant deux matchs. Là, on est en train de vivre la même chose avec Falaï Sakho. Quand il sera réintégré au groupe, quelle réaction il aura et qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain, s'il aura la même réaction que Kazri ou si au contraire il va un peu s'effacer.
Mais je pense que Falaï part de plus loin que Wabi.
On a Lucas également sur Twitter qui nous dit un qui a été transparent en revanche, c'est Tamari. Il court certes, mais en ce moment c'est zéro réussite, ouais. Nous dit Lucas sur Twitter. Alors un mot des blessés quand même, parce que c'est un voyage qui a coûté cher. Trois blessés, donc FT à la cuisse, Chotard le mollet. Les deux feront des examens demain pour savoir ce qu'il en est. Puis Tamari, c'est toujours l'épaule, il a subi des infiltration dimanche, donc en revenant au lendemain du match face à Nice. Et Tamari, franchement, on l'a croisé en zone mixte, il est complètement diminué par cette épaule. Qu'est-ce il n'ose plus aller percuter, il n'ose plus aller au charbon comme il faisait à son arrivée.
Voilà.
Charbi. Tamari, on l'a perdu.
Non, mais on l'a vu sur le duel à un moment. Ben alors là, c'est frappant. Il a un duel avec Todibo, une contre-attaque. Il n'y va pas. Mais les amis, honnêtement, comment reprocher quoi que ce soit à Moussa Tamari? N'oublions pas qu'on l'oblige. Franchement, on l'oblige à jouer.
Ouais, c'est ça.
Il doit être à 40%. À chaque contact, il a une appréhension, il a mal. Il souffre le martyr. Et on l'oblige à jouer. Il le fait parce qu'il a envie d'aider. Il se fait infiltrer. On prend des risques à l'infiltrer parce qu'il a envie de finir la saison d'aider. Il n'y arrive pas parce qu'il va moins dans les duels. Il est moins performant, mais il court de partout quand même. Mais comment tu veux que moi, si j'avais été joueur et qu'on m'obligeait, on me l'a déjà fait, à jouer blessé et qu'après je me fasse tailler derrière, comment tu veux l'engueuler? Parce qu'il se bat, il essaie de se battre, mais on parle d'un joueur qui diminue à 40%. Donc pour moi, la faute, elle incombe pas forcément à Moussa Tamari dans cette histoire.
Ne pas lui en vouloir, mais peut-être aussi changer de stratégie. Alors maintenant que quand se rend compte qu'on joue peut-être, mais c'est pas contre Moussa Tamari que j'ai dit ça, mais qu'on joue peut-être à 10 et demi, mais peut-être le laisser se faire opérer, le laisser se soigner tranquillement et avoir 11 joueurs opérationnels sur le terrain.
Ou fais-moi le rentrer. Par contre, à l'inverse d'un Wabi, garde-toi le haut chaud. Il y a 0-0 à la 60e, 70e. Ouais. Lui, par contre, quand même, sur une axelle avec le gaz, avec le truc, il peut aller au bout. Donc, peut-être garde-toi le en réserve et vois une autre solution. Parce que c'est pas l'idée non plus, le joueur, vraiment, c'est pas l'idée de le foutre sur le terrain en ce moment.
On a Tom également qui nous disait, pour une fois, en effet, les remplaçants ont apporté. Et Michel a fait du 100% sur ce match-là. Ça fait du bien. Mmh. Hashtag Bleu Payade sur Twitter.
On le a choix de départ intéressant.
Tom toujours qui nous dit, oula, calmez-vous avec Chato. Et plutôt d'accord avec toi, Julie, il dit, on oublie que habituellement, c'est très très moyen ce
non, mais moi je me suis pas enflammé,
on a ça, juste mais j'espère vu son jeune âge dit-il qu'il va s'installer, mais faut pas s'emballer. Titi également qui disait pourquoi Fayad ne joue plus, la question sera posée à Michel Derzakarian, mais c'est vrai que Fayad n'a pas joué sur ce match-là, pas joué non plus face à Strasbourg.
Non, il pas rentré.
Si je dis pas de d'annerie.
C'est interrogation du moment.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe la semaine à Gramont?
Il a pas eu grand-chose à faire en revanche, et c'est peut-être ce qui rend son arrêt encore plus compliqué, Benji. C'est Benjamin Lecomte héroïque en fin de match avec un angle qu'il a cette fois-ci bien fermé, contrairement face à Lacazette contre Lyon. Écoutez la réaction de Michel Derzakarian, interrogé donc sur le match de son dernier rempart.
Ben oui, c'est important d'avoir un gardien qui prend pas. Bon, il a pris un but ce soir, mais c'est bien d'avoir bien fait son job aussi. Hein. Et il en est conscient qu'il a fait quelques erreurs, mais ça, c'est le football. Voilà.
Et est-ce que c'est ça, Benjamin Psaume, c'est ce qu'il y a de plus dur, un arrêt en début de match quand t'es pas chaud, un arrêt en fin de match quand t'as pas eu grand-chose à faire?
Ouais, tous les gardiens te le diront, j'ai pas été gardien, mais les matchs les plus durs, quand un gardien est chaud, qui subit un arrêt toutes les 5-6 minutes, des fois il est dans un moment, il est on fire, comme on dit, c'est plus facile pour lui. Par contre, quand t'as pas trop de situations et que t'en as une à gérer toutes les demi-heures ou tous les trois quarts d'heure dans le match, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Et surtout, il a dans le moment clé, dans le momentum, 93e, quand je disais on était acculé, ben là il te sort l'arrêt qu'il faut, il fait un bel arrêt aussi hein, sur une frappe de Boga aussi, mais il te sort l'arrêt qu'il faut, et comme je t'ai dit en avant-match, je me répète rapidement, pour te maintenir, ça va se jouer sur un but, un arrêt de gardien, une décision arbitrale, ça peut se jouer sur un coup de pied arrêté, et là tu vois, si on était à la dernière journée, ben c'est Lecomte qui t'aurait maintenu, donc jusqu'à la fin de saison, en plus contre Paris il va être sollicité c'est sûr, mais il va falloir que ce soit contre Toulouse ou n'importe qui nous sorte cet arrêt en fin de match qui nous permet de prendre des points, comme je te dirais qu'un Caserie, un Adam, cette TJ aura peut-être le pénalty à la dernière journée à mettre au fond, c'est des moments clés d'une saison, et c'est les cadres qui doivent t'assurer ça.
Il y a Lucas qui a ajouté par rapport à son tweet sur Tamari juste avant, attention Benji, par rapport à toi, je lui en veux pas. Qu'il est blessé, c'est la contradiction. Pas... On le fait jouer blessé,
c'est pas que pour toi, Lucas, hashtag mais je vois énormément de messages ces derniers temps où on dit faut ouvrir le dossier Tamari, faut y aller, faut en parler et tout. Les amis, on l'oblige à jouer blessé, n'oubliez juste pas ça.
On a Pierre et Bruno qui vont jouer pour tenter de remporter deux places pour le match face au PSG. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Pierre nous appelle de Montarno et Bruno est à. Et où, Bruno?
Alors, aux Angles, dans les Pyrénées, je vous écoute, je vous écoutais à travers Internet.
Ah, magnifique. J'aime bien. C'est bien quand 100% Payade se déplace sur les pistes. Ça va boire du vin chaud ce soir. C'est pas mal.
Exactement.
Bon, je vais vous demander, pour tenter de les remporter, ces places-là, la dernière victoire du MHSC en Ligue 1, soyez très attentifs. C'était le 30 avril 2019. Succès 3-2 à domicile. Depuis, c'est 9 défaites en championnat. Cela dit, même quand Montpellier a perdu, Montpellier a marqué des buts face au Paris Saint-Germain, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, évidemment. Et je vous demande ce soir de me dire, vous allez le faire l'un puis l'autre, de me dire qui sont les auteurs des 10 derniers buts marqués au PSG par Montpellier. Ils sont tous différents. Il peut y avoir aussi des CSC de joueurs parisiens. Je vous les demande pas dans l'ordre, mais les 10 derniers buts que Montpellier a inscrits face au Paris Saint-Germain, je veux 10 noms. Chacun me fait sa liste et on verra ensuite qui a raison.
Oui, hors coupe.
Hors coupe. Précise. Exactement. Hors coupe de France. On parle que du championnat. Les 10 derniers hommes qui ont marqué face au Paris Saint-Germain en faveur de Montpellier, domicile et extérieur confondus. 10 noms. On va commencer avec Pierre qui me donne une liste de 10 noms.
Oulala, 10 noms.
Et j'ai dit, il peut y avoir aussi des CSC.
Il peut y avoir des CSC.
Allez, je prends ta liste, Pierre.
Je me lance, mais je vais dire Souleymane Camara. Andy Delors.
2.
Laborde.
Ouais.
Après
on n'a pas marqué des tonnes de buts non plus, donc je sais pas si ça remonte au calendrier grec ou pas.
Ah, ça remonte en gros à 2016, 2017, 2018, voilà.
Ouais, 2017.
Jusqu'à l'année dernière.
L'année dernière, ben, j'avais dit déjà. Qui c'est qui avait marqué l'année dernière? Je m'en souviens même plus.
Plus tu prends ton temps, plus tu donnes du temps à Bruno pour réfléchir.
Pour chercher. Pour chercher sur Internet.
C'est ça, oui. Ben, Bruno, il doit chercher sur Internet. Ça doit être un peu plus
assez difficile à trouver.
Ouais. Vous dites, hein. Ça ne se trouve pas. Ouais, ben, c'est ça. Bon, moi, j'ai pas le PC sous les yeux, moi.
Allez, encore 7 noms.
Franchement.
On peut aider un petit peu Bébert ou pas?
Eh non, si tu aides
les deux, bah on va aider les autres, les deux.
Un CSC du Paris Saint-Germain, j'aurais pu dire, je sais pas qui c'est qui a pu marquer pour le PSG.
Là, mais souvent.
Allez Bruno, parce que là on va arriver, il va être 20h.
Ouais, c'est ça. Non, mais je donne ma langue au chat, tant pis.
Bon, il a trois noms, Pierre. Bruno, à toi, dis non.
Dis non. Franchement, au hasard, je vais commencer par Giroud.
Oula, on remonte très loin. J'espère qu'on a marqué 10 buts depuis Giroud quand même. Qui?
Mounier, Steve Mounier. Boudebouze, je vais prendre les anciens.
Les 10 derniers, hein, les 10 derniers.
Attention, il faut des récents aussi.
Paris, hein.
Il faut des récents aussi.
Le match aller, par exemple.
Récent,
ouais. On en met un au match aller.
Ton jeu c'est un fiasco.
Ton jeu c'est un fiasco,
je t'avais dit. C'est annoncé.
Bruno.
Ouais.
Y a pas d'autres noms, il y a des joueurs actuels et même sur les 2-3 dernières saisons.
Ouais, mais là c'est à froid comme ça. Là. Ouais.
Bon, bah ça fait 3 chacun. On va s'arrêter là et on va regarder qui, parmi les 3 données, a le plus de bonnes réponses. Pierre, tu nous as dit Camara, Delors et Laborde. Camara, c'est oui dans les 10 derniers. Delors, c'est oui dans les 10 derniers. Laborde, c'est non. Laborde n'a pas marqué face au Paris Saint-Germain. En tout cas, pas en championnat. En Coupe de France, oui, mais pas en championnat. Boudbouze, dans les 10 derniers, c'était bon pour Bruno. En revanche, Mounier et Giroud, c'est beaucoup trop vieux. Et c'est donc Pierre qui va remporter ce jeu ce soir. Les places vont partir à Montarno. Dans les angles, elle se serait perdue de toute façon.
On va dire que c'est une victoire à l'arraché quand même.
Ouais. Bon, je vais vous donner les 10 derniers buteurs. Nordin, Kasri, Chato, Mavididi, Paredes contre son camp, Kimpembe contre son camp, Delors, Camara, Mollet et Boudbouze. Voilà les 10 derniers buts marqués par Montpellier face au Paris Saint-Germain.
Ouais, c'était dur.
Bon, mais parfait.
Bon, Pierre, on t'envoie les deux places. En tout cas, on va te passer Amandine au standard pour voir comment les récupérer. Et puis, j'en ferai gagner d'autres, Bruno, vendredi soir. Et puis, il y en a d'autres toute la semaine dans 100% Paillade. Et puis, dans les autres émissions de France Bleu Héros à gagner. Donc, j'espère que tu en auras aussi, Bruno, pour aller voir ce match-là. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci, bonne soirée, les gars.
Oui, bonne soirée aux angles. J'adore les angles, c'est magnifique. Ouais. Je vais t'y emmener un jour.
C'est droit là-bas.
Benji. Je vais t'y emmener aussi.
Ah ouais, paye-moi une pisse à la dière déjà, on verra si on part un week-end ensemble.
Merci beaucoup à Julie d'avoir été en studio avec nous ce soir. Merci beaucoup à Dorian.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Merci à mon ami Mathieu Casanas d'avoir réalisé l'émission. Merci à Amandine également au standard. Benji.
Merci, à vendredi, Bébert.
J'ai pas dit merci à toi.
Non, mais d'accord. Mais merci.
En tout cas, on se retrouve en podcast FranceBleu.fr, l'application ici. Vous téléchargez le podcast, vous abonnez, vous réécoutez. Et puis, on se retrouve vendredi soir dans 100% Paillade pour l'avant-match face au Paris Saint-Germain avec des choses à vous annoncer. Merci. Éléonore, bonne soirée sur France Bleu, à bientôt.
Bonne soirée.
100% Paillade sur France Bleu Héros.